it's 4 months away. You got to get your tickets, Jim, because they're going fast and it can't last. All right now, the time is 7:54 and there's a breeze of 50 degrees around your M11 hips. And the weatherman says we have a taste of fog. I say we got a bowl of soul, and if you think your heart can take it, woo, come fly higher with the heavy.
Canal Sud, 92.2. Un frisson dans la nuit.
Veuillez le, je ne veux pas m'arracher à l'objectivité qui m'écrase, ni à la subjectivité qui m'exile. Puisqu'il ne m'est pas permis ni de m'élever jusqu'à l'être, ni de tomber dans le néant. Il faut que j'écoute, il faut que je regarde autour de moi plus que jamais. Le monde, mon semblable, mon frère.
It's 4 months away. You got to get your tickets, Jim, because they're going fast and it can't last. All right now, the time is 7:54 and there's a breeze of 50 degrees around your M11 hips. And the weatherman says we have a taste of fog. I say we got a bowl of soul, and if you think your heart...
Je ne sais pas pourquoi j'aime la poésie. Et que j'aime la poésie alors que je ne prends plus le bus. Endroit idéal pour moi, pour lire de la poésie. Certains préfèrent le bord d'une rivière ou le ressac de la mer, entouré de gens ou totalement seul sous la lumière de la lune. J'aime bien aussi le faire à la radio. En fait, depuis un certain nombre d'années, voire décennies, où je commets quelques émissions, je rêve d'être un animateur de radio comme il y en a tant, ou comme il y en avait tant. Aux États-Unis. Une radio où trois animateurs se partagent la journée, le 3-8h ou le 4x6h. L'exemple type de cette radio est décrit dans Play Misty for Me de Clint Eastwood, Un frisson dans la nuit, qui est aussi le titre de cette émission. Que fait donc Dave Gerver dans cette radio? Il passe de la musique, lit des poésies, répond au téléphone, passe les musiques qu'on lui demande, fait des dédicaces, donne la météo ou l'heure. Et ça recommence. L'heure, la poésie, la météo, la dédicace, la musique, et ainsi de suite. C'est de la radio d'ameublement. Celle où je me suis fait une culture musicale. Même si en France, elle n'existait guère. Aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité de passer une nuit à animer. Une émission, un film musical. Les gens écoutent la musique dont ils ont envie sur la plateforme ou YouTube, et la radio disparaît peu ou prou. Donc ce soir, nous entendrons juste un petite pincée de Misty. Ça passe déjà durant le générique. Je donnerai l'heure, peut-être pas la bonne. Quelques poésies, la météo, peut-être pas la bonne. Il fait chaud, il pleut. Quelques poésies, quelques musiques, ainsi de suite, jusqu'à la fin de cette émission. Donc les mains sur la table de mixage, quelques livres de poésie avec des signes, et c'est parti. Ah, et la pile de disques aussi. Enfin, une pile de disques très virtuelle, comme on en a aujourd'hui. C'est plus triste, mais c'est illimité.
Message d'alerte de la mairie de Toulouse.
Bonjour, ici votre maire, Jean-Luc Moudinc. Je vous appelle pour vous inviter à la plus grande vigilance en cette période de canicule. Pour votre santé, voici quelques conseils. Buvez de l'eau régulièrement. Ne buvez pas d'alcool. Rafraîchissez-vous fréquemment. Mouillez votre corps et ventilez-le. Fermez les volets en journée. Évitez les efforts physiques. Donnez des nouvelles à vos proches et prenez des nouvelles d'eux. La mairie est à vos côtés, en particulier en soutien des plus fragiles. Pour toute question ou si vous avez besoin d'aide, appelez Allo Toulouse en composant le 05 61 222 222. Je répète, 05 61 222 222. Je vous souhaite un bel été.
Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2 pour réécouter. Si vous avez bien compris ce message, appuyez. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 2 pour réécouter. Si ce message, appuyez sur 1. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Sinon, si vous avez bien compris ce message, appuyez si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Appuyez sur 1 pour réécouter. Sinon, appuyez sur 2 pour réécouter. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Appuyez sur 2 pour réécouter. Sur 2 pour réécouter. Si vous avez bien compris ce message, appuyez sur 1. Sinon, appuyez sur 2 pour réécouter.
De grâce, n'appuyez pas sur 2. Vous avez bien compris ce message, d'ailleurs moi aussi je l'ai bien compris. Et, de toute façon, moi je suis vieux, alors donc je le comprends d'autant plus. Mais je suis quand même né dans le sud. Alors je sais ce qu'il faut faire quand il fait chaud. Alors spéciale dédicace aux gens qui peuvent souffrir de la chaleur parce qu'ils sont dans la rue. Spéciale dédicace à ceux qui dorment dans la rue, à ceux qui travaillent dans la rue, à ceux qui sont obligés de rester dans la rue. À ceux qui n'ont pas de volet, à ceux qui vivent dans des passoires thermiques, et à tous ces gens qui ne font pas ce qu'ils ont envie. Un titre tiré de Banane Amour de Kevin Ayers, un indépassable. Don't let it get you down. Ne vous laissez pas abattre, même si quand même tout est fait pour qu'on se laisse abattre. Kevin Ayers. Tant de problèmes dont on ne peut rien faire, tant de fenêtres percées sur chaque mur, tant de sentiments que tu ne peux pas exprimer, tant d'échecs que tu appelles succès. Tu pleures pour avoir perdu ce que tu n'as jamais vraiment eu. Souviens-toi juste des bons moments avec les mauvais. Souviens-toi que le vrai amour ne disparaît jamais. Si ça a duré un instant, ça perdure de nombreuses années. Ne te laisse pas tromper d'aucune façon, tu sais que ton avenir dépend d'aujourd'hui. Si tu ne portes rien, ça ne t'alourdira pas. Tu es le roi et la reine, tu es la cour. Parole nébuleuse s'il en est, mais avec le principal qui est dit, don't let it get you down.
So many problems, yet none at all. So many windows through every wall. So many feelings you won't express. So many failures you call success.
Thank you. already had. Just remember the good times alongside the bad. Remember that real love never disappears. If it's lost at a moment, it'll last for years.
Toujours sur Canal Sud 92.2. Il est 20h11. Je crois qu'il pleut toujours, même si d'ici je ne vois rien. À côté, on boit quelques verres pour un vernissage. Et puis j'ouvre Clara Isée. Des langues entre les phalanges. On inventera une langue sauvage, une langue exilée, une langue protégée, brûlée, éraflée, une langue désintégrée, mais pour nous langue sauvée, une langue asile, une langue antimissile, une langue difficile, une langue inutile, reptile, fertile. Une langue en constant mouvement pour accueillir les enfants, les résistants, les torrents, les bruits de diamants. Une langue pour les éléphants, une langue pour la mémoire, une langue pour les histoires. Une langue pour les émotions, pour les papillons. Une langue qui refuse de mentir, une langue contre les empires. Une langue pour les fragiles navires, une langue pour s'écrire. Une langue pour s'aimer et jamais pour se déchirer. Une langue pour se retrouver. Une langue pour faire l'amour et qui brille tout le jour. Une langue imprenable comme les châteaux de sable. Une langue inviolable car notre langue est impalpable. Une langue non négociable. Une langue pour la paix. Une langue pour les forêts, pour les sommets, pour les excès, pour tout ce qui est vrai. Une langue pour s'accueillir. Une langue pour vieillir. Une langue pour le désir, pour rire, pour éblouir. Une langue pour soulever en moi ce qui me relie à toi. Une langue pour la terre, pour les pierres. Une langue pour les prières. Une langue contre la guerre, une langue contre la guerre. Une langue contre la guerre. Une langue contre la guerre. Une langue sans patrie. Une langue qui jamais ne trahit, une langue qui jamais ne maudit, et que vive la poésie, et que vive la poésie, et que vive la poésie. Clara hissait des lances entre les phalanges. Dédicace à Edgar Morin. Aphrodite Child for Horsemen. 20h16, le ventilateur tourne à fond. Les pales du ventilateur ne suffisent pas à transformer ce studio en case au bord de la plage. Plaisir ou cauchemar, je ne sais pas encore. 20h16, Canal Sud, 92.2, un frisson dans la nuit.
Thank you. Il est 20h21 sur Canal Sud 92.2. Un frisson dans la nuit. Une soirée un peu chaude, très chaude. La température ne descend pas.
Spéciale dédicace à notre monde déglingué.
Et aux usagers de la SNCF. Anne-Laure Pigache.
Magazine TGV, novembre 2006. Tout va bien. Tout va de mieux en mieux. Canal Sud 92.2. Il fait beau. 20h22.
D'ici à 5 ans, chaque Français disposera de sa propre carte d'identité électronique. Un marché juteux et une indéniable innovation qui repose sur une simple puce est sur la vigilance tant ce titre de citoyenneté semble crucial pour exister dans l'e-démocratie du troisième millénaire. Orwell l'a imaginé, la modernité l'a appliqué. Avec l'arrivée de la carte nationale d'identité électronique, la France entre de plein pied dans un... Un futur aussi high-tech que troublant. Mais grande nouveauté, la carte possède aussi... biométrie qui sont les caractéristiques physiques de l'individu, telles que la voix, l'empreinte digitale ou l'iris de l'œil. En outre, la puce abrite un système de... une certification électronique qui permet de la sécuriser totalement. Vers la fin des faux papiers, à terme, la carte nationale d'identité électronique pourrait se substituer à la carte de crédit bancaire et être utilisée pour réserver, s'inscrire, commander, payer, résilier, carte vitale, permis de conduire, carte d'étudiant, carte d'électeur. En tout cas, l'Europe y croit. Pendant ce temps, les industriels se frottent les mains, ils peuvent compter sur un solide revenu grâce au renouvellement des 40 millions de cartes d'identité françaises, prix moyen à l'unité 15 euros. un avenir réjouissant pour le secteur et une belle carrière assurée pour une trouvaille qui avait pourtant connu un mauvais départ. C'est sous le régime de Vichy que la carte nationale d'identité avait été créée.
Le ventilateur tourne à plein régime. N'oubliez pas de boire, dit le maire. Mais pas d'alcool, dit encore le maire. Maintenant, la météo ne m'intéresse plus. La seule chose qui m'intéresse, c'est la vie des Lagonides. Spéciale dédicace à ceux qui veulent tout savoir et ne rien comprendre. ceux qui interrogent.
Culture plurielle, une émission présentée par Dominique Chauffour-Duval.
Nous accueillons aujourd'hui Félix Brun, chargé de recherche en anthropologie. Bonjour.
Bonjour.
Félix Brun, vous avez passé 2 ans auprès des Lagonides pour étudier de l'intérieur leur singulière culture. Vous publiez cette semaine un ouvrage intitulé « Ceux qui s'interrogent », dans lequel vous livrez vos observations et vos découvertes. Il s'agit d'un texte bref, mais considérable par ses implications. Peut-on dire que votre travail a dépassé de beaucoup les limites de l'anthropologie et qu'il risque de changer notre conception du monde ?
Permettez-moi de remercier tout d'abord à l'antenne mon directeur de recherche au CNRS, le professeur Maurice Brezen, qui m'a encouragé dans cette mission, ainsi que les établissements Vallée qui l'ont rendu possible par leur concours technique et financier. Pour répondre à votre question, je dirais que ma propre conception du monde a été changée parce que j'ai appris au contact des Lagonides. Mais je ne m'engagerai pas sur la portée éventuelle de mon livre à chaque lecteur d'en mesurer les conséquences pour lui-même. Moi, je me contente de décrire la vie et de rapporter la pensée Lagonide.
Justement, qui sont-ils donc, ceux qui s'interrogent ?
Eh bien, c'est ainsi que s'appellent les Lagonides dans leur propre idiome, ou à tout le moins, c'est ainsi qu'on peut traduire le nom qu'ils se donnent. Itsuki Aro, ceux qui s'interrogent ou ceux qui doutent, comprenez, qui doutent de leur identité, ceux qui ne savent pas qui ils sont, ou même les insaisissables, littéralement anguilles à eux-mêmes.
Ce qui nous ramène à la nature fondamentale des Lagonides. Il s'agit avant tout d'un peuple de pêcheurs. Petite remarque en passant, vous ponctuez toujours l'énoncé de Itsuki Aro d'un point d'interrogation. À quoi cela est-il dû ?
Itsuki Aro ne s'emploie qu'à la forme interrogative, ce qui est une curiosité linguistique, en effet, pour un nom propre. Mais pour revenir à votre première question, effectivement, toute la culture lagonide, en apparence assez primitive, est centrée sur la pêche, notamment la pêche aux anguilles. Il semble que le moindre progrès de leur civilisation est dérivé d'un perfectionnement de la pêche aux anguilles.
L'invention de l'écriture, par exemple.
Vous avez tout à fait raison de choisir cet exemple. L'invention de l'écriture est chez eux absolument inféodée à leur observation des anguilles et à la transmission du savoir concernant ces poissons. Au début, les Lagonides disposaient le corps d'anguille tordu ou noué sur le sable des plages, puis conservaient les empreintes creuses en guise de texte. On pouvait ensuite lire les mœurs de ces proies et les différentes techniques de pêche inscrites dans le sable.
Alors, vous expliquez comment ces empreintes descriptives, ces calques en quelque sorte, deviennent peu à peu des symboles, des lettres qu'on trace directement à la main après avoir abandonné l'intermédiaire des véritables anguilles. Vient enfin le temps de l'écriture sur papier.
Là encore, l'invention du papier est en relation directe avec la pêche aux anguilles et son usage ne s'appliquera que par dérivation à la conservation de l'écriture. On peut dire que le papier a été inventé pour faciliter la pêche aux anguilles parce que ces poissons présentent la particularité d'être extrêmement difficiles à saisir et les Lagonides avaient imaginé de fabriquer des espèces de feuilles de papier en moelle de jonc tressée, dont ils cédaient, dont ils enveloppaient les anguilles, pour pouvoir plus facilement les immobiliser. Et ils ont imaginé ensuite d'utiliser ces mêmes feuilles pour fixer leur écriture, comme s'il y avait eu glissement d'une pratique ou d'un sens concret à une pratique ou un sens beaucoup plus métaphorique, comme si la langue... Lagonide était une sorte d'anguille qu'il fallait saisir, qu'il était difficile de saisir, et dont on pouvait céder pour la saisir de ses feuilles de papier.
Je crois que nos auditeurs auront bien compris que c'est effectivement une culture tout entière tournée, conçue autour des anguilles, autour de l'activité principale des pêcheurs. Vous avez aussi rapporté des documents sonores intéressants, et je voudrais qu'on nous en fasse entendre un, si possible, maintenant. Vous le commenterez après, peut-être.
Mmh.
Pouvez-vous préciser ce que nous venons d'entendre ?
Il y a d'abord eu l'enregistrement de cris d'anguille, qui constitue un code de localisation avant la migration et le frayage. Aussitôt après, vous avez diffusé un chant de méditation lagonide.
La parenté est très étroite entre ces deux objets sonores. Les pêcheurs imitent-ils les anguilles ?
Ils essayent plutôt de devenir des anguilles. Pour eux, la vérité est comme une anguille. Si on la pêche pour la connaître, on obtient rapidement qu'un cadavre d'anguille, non une véritable anguille, c'est-à-dire un simulacre de vérité. Le seul moyen d'accéder à la connaissance pour les Itsukeharo, ceux qui s'interrogent, c'est de devenir l'anguille, devenir l'objet même de l'interrogation, plutôt que lui arracher son secret, ce qui tuerait l'animal et dénaturerait la connaissance.
C'est une approche des phénomènes sensibles tout à fait particulière.
C'est la seule, en tout cas, que les lagonides jugent légitime.
Et elle donne de bons résultats.
Les lagonides, il ne faut pas l'oublier, enfin, j'aurai l'occasion de le rappeler peut-être un peu trop souvent, les lagonides sont ceux qui s'interrogent, ils attachent du prix aux questions, pas aux réponses. Celui qui donne les réponses, celui qui tue l'anguille, et comme ils disent, c'est vous ou c'est moi.
Moi peut-être, vous non, puisque vous avez traversé l'initiation lagonide.
Oui, enfin, il faudrait plutôt dire que c'est elle qui m'a traversé. On m'a percé le talon avec un hameçon plat et on m'a dit « Les enfants sont des appâts pour l'avenir ».
Ce qui signifie ?
Le sens a varié au cours de l'histoire lagonide, mais la phrase fait allusion à la grande famine, le temps de la mer avare, que les lagonides ont connu au XVIIIe siècle. Ils avaient alors utilisé leurs propres enfants comme appâts, tant la pêche était difficile. De cette époque est restée l'idée qu'on faisait toujours bien d'avoir des enfants, ne serait-ce que pour appâter si la famine revenait.
Quel cynisme !
La leçon méritait d'être tirée. À son origine, l'initiation faisait revivre ces événements. On accrochait l'enfant par le talon au bout d'une ligne, on le jetait en mer et il devait rapporter une proie. Puis la pratique s'est adoucie, un plongeur attendait l'enfant sous la surface pour le guider et lui fournir une proie. Aujourd'hui ne reste que le rite du talon transpercé qui fixe la mémoire grâce aux cicatrices.
Mais aujourd'hui encore, les enfants sont en appât pour l'avenir.
Pour me faire mieux comprendre, il faudrait que j'explique la conception que les lagonides ont de l'avenir. Et pour eux, ce n'est pas quelque chose de donné a priori, ce n'est pas un avenir qui avance de lui-même. Le temps ne se déroule pas de façon physique. Il faut, à la limite, le pêcher comme on pêche les poissons en mer. Et c'est les enfants qui sont chargés de pêcher, de haler le temps et de l'attirer en fait jusqu'à nous.
Alors justement, le moment est peut-être venu d'écouter un des merveilleux documents sonores que vous nous avez ramenés, qui est, je crois, une comptine enfantine.
Oui, ce sont les chants que les enfants lagonides chantent pour pêcher le temps.
Parfait, alors allons-y.
Bete reto beto, bete reto beto, Itsuke aro. Bete reto beto, bete reto beto, Itsuke aro. Shoe shoe reto beto, shoe shoe reto beto, shoe shoe reto beto. Bete reto beto, bete reto beto, Itsuke aro. Bete reto beto, bete reto beto, Itsuke aro. Shoe shoe reto beto.
On l'aura bien compris, les lagonides sont surtout des pêcheurs de symboles.
C'est tellement vrai qu'ils ont renoncé à pêcher des anguilles véritables.
Pourtant, on ne peut pas se nourrir que de symboles physiquement.
Il faut savoir que les entrailles de poulet sont une excellente amorce pour l'anguille. Aussi, les pêcheurs élevaient-ils des volailles pour la pêche. Ils ont perfectionné leurs élevages, ce qui leur permet de pêcher les symboles et de se nourrir uniquement des poulets.
Nous avons donc affaire à un peuple de pêcheurs d'anguilles qui ne pêche, en définitive, pas d'anguilles, qui s'interrogent sans pouvoir donner de réponse. Savent-ils même qui ils sont ?
Bien, prenons les anguilles. Elles vivent en rivière, on ne peut distinguer les mâles des femelles. Quand vient le moment de la reproduction, les poissons gagnent la haute mer et se rassemblent aux sargasses. C'est là qu'ils apprendront leur sexe, le temps de s'accoupler. Peut-être avant ce moment-là ne savaient-ils même pas qu'ils étaient des anguilles. Les lagonides considèrent leur identité de la même manière. Ils font des hypothèses sur ce qu'ils sont sans pouvoir apporter de réponse.
C'est clair.
Ils ne découvrent leur identité sexuelle qu'à l'instant du coït, mais soit ils n'en conservent pas le souvenir, soit ils doutent de leur mémoire. Aussi, dans la vie quotidienne, les lagonides sont tous du genre neutre. Leur appartenance à la race humaine reste quasiment une hypothèse à leurs yeux.
C'est un paradoxe.
Ce n'est que pas le plus grand paradoxe, puisque les anguilles ignorant être des anguilles en tout autre lieu que la mer des Sargasses, les lagonides pourraient être, eux aussi, des anguilles qui s'ignorent.
Vous prétendez que certains d'entre eux cherchent activement une réponse à cette question?
Oui, chaque année, quelques pêcheurs se mêlent au flux migratoire des anguilles et nagent avec elles en direction de la mer des Sargasses.
Quelle est leur conclusion au retour?
C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu revenir aucun nageur. Les lagonides utilisent ce fait comme un argument en faveur de l'hypothèse selon laquelle les nageurs sont des anguilles. Ils découvrent leur véritable identité dans la mer des Sargasses et reviennent donc sous forme d'une anguille qu'on ne peut distinguer des autres.
Ou alors ils sont noyés en route, tout simplement.
C'est le risque que courent ceux qui s'interrogent lorsqu'ils veulent à toute force une réponse.
Mais selon vous, la plupart des lagonides échappent définitivement à la mort. Je suis certain que nos auditeurs aimeraient apprendre quelle est leur recette.
Je la leur expliquerai volontiers, mais seront-ils assez bons pêcheurs pour l'appliquer?
Certains d'entre eux, qui sait?
Eh bien, pour comprendre cette croyance lagonide, il faut en livrer l'origine. Contenue dans une légende, c'est un petit peu long, je m'en excuse, mais c'est un mythe fondateur.
L'histoire d'Aquaba.
Oui, ce personnage est l'équivalent d'un Ulysse, ingénieux, roublard, très habile, l'archétype du pêcheur diabolique et surtout vantard. Son nom signifie à peu près « j'ai tout pêché ».
Un Ulysse, mais aussi un anti-narcisse, non?
Oui, mais enfin, surtout un négociateur. Lorsque la mort vient le prendre, il se met à discuter avec elle, à poser ses conditions. Mourir, d'accord. Quelle que soit la manière, si ce n'est pas la noyade. En échange de cette restriction, il fera un présent fabuleux à la mort, un poisson d'or pur. Du haut de la falaise, il le montre qui nage au pied des rochers. En réalité, ce n'est que le reflet du soleil dans l'eau. Aquaba, celui qui a tout pêché, vient de tendre un appât à la mort, vous l'avez compris. Et elle l'avale, elle accepte le marché, le pêcheur descend jusqu'à la plage, pêche un poisson ordinaire, puis se penchant au-dessus du flot, il pêche sa propre image, qui se reflétait à la surface de l'eau.
C'est en cela qu'il incarne un anti-narcisse.
Si vous voulez, je poursuis le récit du conte. Notre Aquaba hisse son reflet et l'envoie à sa place, porter le poisson ordinaire à la mort qui l'attendait. Lorsque le reflet d'Aquaba, parvenu au sommet de la falaise, présente le poisson, la mort croit que le pêcheur essaye de la tromper sur la question de l'or, alors qu'il la trompe sur la plus grave question de la vie. Croyant se venger, la mort choisit de faire périr le héros de la façon qu'il redoutait le plus. Elle précipite le reflet du haut de la falaise pour le noyer. Et en fait, il retourne à la mer dont il vient juste de sortir. Aquaba, pour sa part, garde la vie sauve.
Peu d'hommes, sans doute, seront assez habiles pour pêcher leur reflet.
Oui, dans les Occidentaux, certainement. Mais les lagonides pensent être de ceux-là. Toute leur vie est conditionnée par la pêche, au propre et au figuré. Ils sont des pêcheurs absolus. S'ils pressentent que la mort les menace, ils partent en mer. « Je vais pêcher mon reflet, » disent-ils.
Sincèrement, cela les fait-il vraiment échapper à la mort?
Ils meurent, oui. En tout cas, un jour ou l'autre, quelqu'un meurt. Mais chacun suppose que le mort, c'est le reflet, cependant que l'original continue sa vie loin du village.
Et vous, vous avez été assez habile pour pêcher votre reflet?
Écoutez, je ne peux vous révéler cela, et aucun lagonide ne le révélerait. Ce serait rendre la partie trop facile à la mort que de lui indiquer quel est le reflet et quel est le pêcheur.
Mais nous ne saurons donc pas si c'est Félix Brun qui était notre invité aujourd'hui, ou bien son reflet.
N'attendez pas de réponse.
L'immortalité mise à part, êtes-vous satisfait de ce que vous avez pêché auprès des lagonides?
Je crois avoir pêché ce petit livre intitulé « Ceux qui s'interrogent ». Mes lecteurs, s'ils ne peuvent grâce à lui saisir ma pensée, je leur conseille d'en arracher les pages et de s'en aider pour immobiliser des anguilles lorsqu'ils sont à la pêche.
Ceux qui s'interrogent, rapport sur la vie et la pensée de l'agonide, est publié aux éditions La Pensée Vivante. Félix Brun, je vous remercie. Je rappelle à nos auditeurs que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission.
Dominique Chauffour-Duval vous a présenté Culture Plurielle. Production Bernard Faure. Réalisation Patrick Ravella, assisté de Serge Rivron.
Note à moi-même. S'il te plaît, pense à rincer le verre avant de boire. Sinon, le verre mourra. Dis-moi, qui était là en premier? Le poulet ou l'aile du poulet? Je ne sais pas trop pourquoi. Tout est là, à sa place, mais tout au fond. Je crois que mon gratin de thon est ton gratin de thon. Et aussi je crois que les toiles d'araignée de ma maison sont faites maison. Note à moi-même. J'ai au moins un corps. Je sens quelques os dedans. Parfois je me demande d'où viennent les gens morts. Et puis d'un coup, je m'en souviens. Tiré de muscles numéro 10. Jason Héroux, note à moi-même. 20h49, Canal Sud. Un frisson dans la nuit. La température n'est plus une question. Le climat n'est plus une question. Les réponses existent, mais elles sont mises en question. Que devient Gaza ? Rien de plus que ce que c'est, le reflet d'un miroir non déformant qui montre l'imbécilité de tous les dirigeants du monde. Spéciale dédicace aux Palestiniens, aux Gazaouis, sans se référer aux chiffres du Hamas et à ces Palestiniens qui n'existent pas pour Israël et n'ont jamais existé.
يمام وين الهوى يمام ويليا يمام وين الهوى يمام ويليا ضرب الخناجر ولا حكم النذل فيا يما راجع انا بعيونك خبيني قديش شفت عذاب وتعب بسنيني عمري كان يعذب فيا يما وين الهوى يما وليا يما وين الهوى يما وليا هو سين فامي ماما Mama, sing to the wind.
I wish my bones could form a breeze and carry you to the other side. I wish my bones could form a breeze.
sing to the wind, mama. Oh, mama, sing my song. Is it better to die in freedom than a captive life in chains?
h 57, à l'horloge de Canal Sud, qui n'est pas toujours très précise. Pour terminer, un frisson dans la nuit sur Canal Sud 92.2. À une prochaine émission dédicace, spéciale dédicace aux auditeurs de Canal Sud, bien sûr. Et à James Bond, qui tarde à venir sauver le monde.